Et j'ai le plaisir de parler avec Mathieu Francoeur, coordonnateur au mouvement Phase. Bonjour Mathieu.
Bonjour Hélène, ça va bien?
Oui, merci. Et vous?
Oui, merci beaucoup.
Oui, vous êtes bien au chaud, bien à l'abri?
Ah oui, à l'intérieur, oui,
Ben,
aujourd'hui, c'est sûr.
oui, ça ne serait peut-être pas la journée idéale pour faire la grande file d'attente symbolique.
Non, on espère tomber sur une meilleure température.
Oui, on vous le souhaite. Alors, Mathieu, avant de parler plus amplement de cette grande file d'attente symbolique, dites-nous, rappelez-nous, qui sont les personnes que le mouvement Phase représente?
Ben, le mouvement Phase, c'est une action collective, une coalition de groupes communautaires, mais aussi d'individus, c'est-à-dire des groupes communautaires du milieu des personnes en situation de handicap, en déficience physique, intellectuelle et en autisme. Donc, des groupes qui incluent des parents, des personnes qui sont en situation de handicap et des proches. Donc, on regroupe une vingtaine de groupes dans la région de Montréal et plusieurs individus qui s'impliquent avec nous aussi.
Et vous ratissez très, très large.
Ben, on est surtout concentré sur l'accès aux services en santé et services sociaux. C'est vraiment notre majeur. C'est sûr qu'on appuie les luttes pour l'emploi, le transport, les autres enjeux pour les personnes en situation de handicap et les proches. Mais c'est sûr que nous, c'est vraiment l'accès qui est majeur là, dans le cas des personnes en situation de handicap et des proches, l'accès aux services sociaux particulièrement, que ce soit l'hébergement, la réadaptation, le soutien aux familles, le soutien à domicile, tous ces enjeux-là, où il y a des listes d'attente, où il y a des problèmes d'accès.
Oui, justement, quel est l'état de l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap en ce moment?
Ben, je pourrais vous en parler pendant plusieurs heures. C'est sûr qu'il y a tellement d'enjeux là-dessus, mais en gros, c'est sûr que les dernières années, malheureusement, à cause, entre autres, des compressions et des réorganisations du réseau de la santé, il y a des listes d'attente de plus en plus importantes, des délais d'attente de plus en plus importants. La demande augmente beaucoup et les services n'augmentent pas, même diminuent dans certains cas.
Ah oui.
Donc, je pourrais, comme je vous dis, en parler en détail
Est-ce que vous avez
au.
des exemples concrets, bon, des files d'attente, mais peut-être un exemple pour nous?
Oui, ben par exemple au niveau des listes d'attente, par exemple en hébergement spécialisé à Montréal, c'est-à-dire les ressources intermédiaires entre autres, actuellement il y a entre 7 et 12 ans d'attente pour avoir une place. Ça, c'est
7 et 12 ans?
Ouais, dépendamment du besoin, de l'urgence et du type de service dont la personne a besoin, ça peut aller jusqu'à 12 ans. C'est des ressources intermédiaires, des petites maisons qui ont un contrat avec le réseau pour avoir soit des personnes qui ont un TSA, soit une déficience intellectuelle la plupart du temps. Et des fois, ça peut aller plus vite. Ça dépend du CIUS, ça dépend de différentes choses, mais ça peut aller jusqu'à 7 à 12 ans. Et nous, notre problématique, par exemple, dans ce cas-ci qui se pointe, c'est que les parents sont vieillissants de plus en plus. Ils ont gardé leurs enfants toute leur vie à la maison. Et là, ils veulent éventuellement avoir une suite quand ils seront plus
Ben
en
oui.
forme, seront plus là. Et donc, ils font déjà des demandes, puis on leur dit, ben, vu qu'il n'y a pas d'urgence en tant que telle, la personne est chez vous, ça peut aller jusqu'à 12 ans d'attente.
Bon.
Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir plus d'hébergement à Montréal là-dessus.
Oui. Là, on vient de changer de gouvernement. Ça s'est passé au début octobre. Qu'est-ce que vous attendez des nouveaux élus?
Ben, on attend, tu sais, nous, on continue la même campagne qu'on avait faite au printemps, la campagne Nous sommes et nous voulons, où on demande un réinvestissement majeur dans les services et programmes pour les personnes et les familles. Donc, on demande qu'il y ait un réinvestissement dans le premier budget qui va être au printemps prochain, important pour s'attaquer aux listes d'attente. C'est vraiment ça notre credo. Et c'est vraiment le problème majeur, c'est que les gens, par exemple, je peux donner d'autres exemples, en stimulation précoce pour les enfants qui ont un TSA, par exemple. Juste avoir le diagnostic, ça peut aller jusqu'à 2 ans pour avoir le diagnostic et un autre 2 ans pour avoir les services. Donc, les enfants se retrouvent à rentrer dans le milieu scolaire à 5 ou 6 ans et ont les services là parce que dans la petite enfance, il y a trop d'attente. Donc, il y a vraiment une urgence. On espère qu'il va y avoir vraiment un changement de cap au niveau des investissements puis de l'organisation du réseau et que les listes d'attente vont être une priorité pour le nouveau gouvernement.
Mais je trouve très, très patient parce que ça n'a pas de bon sens, je trouve, ces listes d'attente-là.
Non, ça n'a pas de bon sens. Puis on dirait que c'est devenu une norme. C'est comme normal qu'il y ait des listes d'attente. Tu sais, dans un certain contexte où il y a une augmentation de demande importante, on pourrait comprendre qu'il y a quelques mois de délai. Mais là, on parle vraiment ils ont institutionnalisé les listes d'attente. C'est comme une façon de fonctionner. Donc, souvent, on n'augmente pas les budgets, on les laisse au même niveau. Et là, la demande augmente. Et évidemment, il y a des listes qui se créent. Et on voit des cas dans les journaux de temps en temps de parents qui sortent en disant ça n'a pas d'allure, ça fait ça. On attend, on essaie, nous, de collectiviser un peu ces demandes-là pour avoir plus d'impact, plus de force pour avoir des engagements et avoir
Des résultats.
des résultats, des bonnes voies et des décisions qui mènent à des résultats,
Oui.
exactement. C'est pour ça qu'on fait, au printemps dernier, on a fait plusieurs actions.
Oui, allez-y.
Le 31 octobre dernier, on est allé rendre visite aux prolétaires citoyens, une genre de petite occupation pour qu'ils nous aident à entrer en contact avec le gouvernement, le ministère de la Santé et aussi à faire pression. Et ça a donné des résultats. Le protecteur a communiqué avec le ministère. On a renvoyé une demande de rencontre aux différents ministres. On attend une réponse incessamment, mais c'est sûr qu'on veut vraiment que ça bouge rapidement.
Oui, et j'imagine que c'est la file d'attente symbolique, ça a un lien aussi avec vos demandes.
Exactement, oui, je vous parle de les attentes depuis tantôt. On s'est dit, on va la rendre visuelle. Le groupe Autisme Montréal l'avait fait pendant notre campagne devant le bureau du premier ministre. Ça avait fait une file d'attente théâtrale, symbolique. On fait la même chose, mais là, plus grosse, avec tous les gens qu'on représente. Et on va vraiment, on fait ça, c'est une activité de sensibilisation qu'on fait donc dans un lieu public qui est le métro Jean Talon pour sensibiliser les gens qui passent. On va filmer tout ça. On invite les médias, évidemment.
À l'intérieur du métro?
Non, à l'extérieur.
Okay.
À l'extérieur pour avoir le plus de place possible.
Ouais.
Sur la rue Jean Talon, près de Châteaubriant. Et on espère vraiment que ça va frapper l'imaginaire des gens, que vraiment, il y a des gens qui attendent pour de vrai pendant des années et que c'est un problème.
OK. Parce qu'attendre l'autobus, c'est se geler les pieds, c'est pas agréable, mais attendre des 7-12 ans, ça, c'est inadmissible?
Ben oui, 5 ans pour le soutien à la famille, et puis etc. Dans les programmes de santé professionnelle, c'est pareil aussi.
Vous attendez combien de personnes?
Ben on attend, c'est toujours difficile à dire. Au 31 octobre, on était un peu plus qu'une centaine de personnes.
Oui. Vous espérez combien de personnes?
Bien, on espère une centaine de personnes aussi, la même chose.
OK, autour d'une centaine, c'est plus, tant mieux.
Qui vont participer à la file, mais les gens qui vont venir nous appuyer, les gens qui vont venir s'intéresser, parce qu'il y aura aussi du contenu, des gens qui vont prendre la parole. Donc, on veut vraiment exprimer encore une fois nos revendications.
Qui prendra la parole?
Bien, ça va être, on essaie d'avoir le plus souvent possible des membres des groupes, donc des personnes en situation de handicap ou des parents.
Ouais.
Qui prennent la parole. Il y a aussi des intervenants, intervenantes de groupes qui vont prendre la parole. Puis on invite souvent aussi des alliés d'autres groupes, de d'autres secteurs qui viennent nous donner un coup de main.
D'accord.
Donc, on veut vraiment sensibiliser. C'est vraiment une activité de sensibilisation, une activité symbolique, je dirais.
Mathieu, le choix de la date n'est pas un hasard.
Non, c'est sûr. Ça fait quelques années qu'on voulait faire un événement à la Journée internationale des personnes handicapées, qui est le 3 décembre, qui est une journée de l'ONU, une journée mondiale.
Ça tombe quel jour?
Ça tombe un lundi
cette
année. Donc, nous, c'est le lundi midi, notre activité. Puis, vraiment, oui, c'est une journée qui est ici, qui est plus ou moins... il y a des activités officielles, je dirais, mais cette journée-là, c'est pas beaucoup, pas été beaucoup réapproprié par les groupes ou par les personnes.
Ah non?
C'est souvent des trucs plus institutionnels qui vont être faits, un lancement de rapport, des choses comme ça, mais vraiment que les gens se rendre visible, voir la rencontre du public. Ça, on trouvait ça important de faire ça cette année.
Bon, alors on sera au rendez-vous pour assister et participer à cette grande file d'attente symbolique. C'est le 3 décembre à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Bonne chance, Mathieu Francoeur.
Merci, puis c'est peut-être juste précis, c'est à midi devant le métro Jean Talon.
Parfait. Merci, à la prochaine.
Merci, Hélène.
Bye-bye.